Eh bien, bonjour à tous. Ça va bien ce matin? Ah, il y a eu un bon orage cette nuit, ça nous a rafraîchi tout ça. Ça fait du bien. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais nous, c'est cool, c'est bien frais. Je ne sais pas combien il fait.
Bon,
une petite vingtaine de... Hein, c'est bon. On va lire ce matin dans 2 Timothée 2, 4, 6. 2 Timothée 2, 4, 6. Ouf, on peut déjà lire au verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, un de ses jeunes disciples, en disant « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » Amen. Comprends ce que je te dis, il dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, je méditais dans mon bureau, je réfléchissais, je pensais, et puis je me suis dit, mais en fait, nous avons une force que nous devons démystifier, parce que les chrétiens ont toujours tendance à spiritualiser à outrance les choses, et pour la plupart des gens, cette force... Elle ne semble pas compter pour beaucoup, j'y pense pas beaucoup. C'est une force qui se trouve partout dans l'univers. Elle est incommensurable, elle est presque indescriptible, vous allez voir que je vais avoir de la peine à la décrire. Dieu a cette force et il nous l'a donnée, c'est-à-dire il nous l'a communiquée. C'est la force de l'intention. L'intention. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Oh, mais j'ai lu la Bible, je cherche Dieu, mais je ne l'ai pas trouvé. » Mais quelles étaient leurs intentions en lisant la Bible? L'intention, c'est une force terrible. Absolument tout dans l'univers, tout ce qui existe, est relié à l'intention divine par un lien qui est la communication. Je vais expliquer ça. Seigneur, aide-moi à bien expliquer et aide chacun à bien comprendre afin que chacun de nous, nous puissions aller de l'avant et être encore plus efficace pour ta gloire en tant que soldat du roi des rois, en tant qu'athlète de la foi, en tant que cultivateur de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, marche dans la voie, dans le chemin de l'impeccable. Impeccable, ça vient d'un mot latin qui signifie sans péché. Alors, on me dira, ah bon, vous êtes sans péché. Eh bien, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, se sait pardonner, se sait purifier par le Seigneur Jésus, donc sans péché. Une telle personne ne va pas marcher dans le chemin de la culpabilité constante. D'accord? C'est clair? Il faut que ça soit établi. Mais, dans le chemin de l'impeccabilité, impeccable signifiant sans péché, le disciple doit cultiver un art. Il a un code de conduite qui le prépare au lien de la communication avec Dieu, avec les autres, avec la nature, afin d'atteindre l'intention la plus saine et la plus sainte. Celle de notre Père Céleste, l'intention de notre Père Céleste. Le mot « intention » vient du latin, d'un mot latin qui signifie « action de diriger vers ». L'intention de Dieu, c'est une action pour diriger les choses vers. Il a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Il a des intentions et il ne ratera jamais ce qu'il a décidé. Alors, le disciple de Jésus, il doit commencer par nettoyer son existence des effets paralysants qu'entraînent les préoccupations ordinaires de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus se faire à bouffer, qu'il ne doit pas faire son lit, qu'il ne doit pas... Bien sûr, on a des préoccupations, des occupations ordinaires de la vie, mais ça ne doit pas nous embarrasser. Avec l'apôtre, nous pouvons dire... que nous ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. Un disciple de Jésus remet toutes choses entre les mains de Dieu. Et le Seigneur lui donne l'intelligence en toutes choses au moment où il a besoin de l'intelligence pour la chose. Vous comprenez ça? Dieu a un calendrier aussi. Paul nous compare à des soldats. Un soldat, il rompt ses attaches, principalement, ça va peut-être vous étonner, avec sa propre personnalité. En Suisse, là où j'ai fait mon service militaire, vous savez qu'en Suisse, on a une armée, elle est très, très, très forte, elle est très, très, très... c'est une excellente armée. Et la première chose qu'on nous apprend, on s'en rend vite compte, hein, dès le premier jour, on nous apprend à obéir sans discuter. Même parfois, on nous donne des ordres idiots pour voir si on va discuter ou si on va faire. Et pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça? Parce que nous sommes appelés sous les drapeaux de notre pays pour faire partie d'un corps. L'armée suisse est un corps qui a des intentions qui passent avant celles des soldats. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais je m'en fiche. Une armée composée de soldats qui chipoterait sur les ordres ne serait pas une armée. Or, un disciple de Jésus a reçu, en entrant en fonction dans le corps de Christ, un code, pas le code militaire de l'armée suisse, ce serait déjà pas mal. C'est un code de discipline. Mais ce n'est pas le code de l'armée suisse que nous recevons, c'est la Sainte Bible qui est notre manuel de savoir-vivre. On ne se comporte pas comme, j'allais dire comme les civils. Un soldat ne se comporte pas comme les civils. Il y a une autre façon de se comporter. Nous savons, par ce code, que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Ça, on le sait tous. Nous apprenons dans ce code, donc dans la Sainte Bible, que dans ce monde, nous sommes les malvenus. Car dans ce monde est dirigé par l'ennemi de notre Père Céleste. Cet ennemi a aussi des intentions. Ses actions tendent à diriger ce monde vers le chaos. Je vous apprends rien, ça se voit à l'œil nu. Nous savons que cet ennemi a des droits. Par exemple, sur notre corps. Savez-vous que l'ennemi a des droits sur notre corps? Et savez-vous pourquoi il a des droits sur notre corps? La Bible dit que nos corps n'ont pas encore été rachetés, qu'ils le seront lorsque nous comparaîtrons devant Dieu. Alors, tant que nos corps n'ont pas été rachetés, Satan a encore des droits. C'est pourquoi il peut vous rendre malade. Mais vous devez lutter contre cette maladie, chassant la maladie, luttant contre cet ennemi. Il a d'autres droits encore. Hein. Et nous apprenons par le code, par la Sainte Bible, que nous avons surtout des devoirs. Un soldat, il a des devoirs. Nous sommes là pour vaincre cet ennemi. On apprend par le code que l'ennemi, notre ennemi, aime se déguiser très souvent. Il se déguise, il adore se déguiser en ange de lumière. Ça ne veut pas dire que tout à coup vous allez voir un ange lumineux vous apparaître et vous parler. Ça arrive très rarement, hein, mais ça arrive. C'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il aime bien se déguiser en religieux, en chrétien, en bienfaiteur, en donateur généreux. Il adore ça. Et on apprend par ce code que nous devons pour gagner la bataille contre notre ennemi, développer la capacité de discerner des esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Ils se déguisent. Ils se faufilent dans les assemblées, dans les communautés, et puis on dirait que oh, il est gentil. Eh oui. Dieu a une intention, et cette intention, c'est pas celle de punir le diable et ceux qui le suivent, pas du tout. Il n'a pas du tout cette intention. Il a l'intention de détruire le diable et détruire tous ceux qui le suivent. C'est très différent. Et nous devons être d'accord avec l'intention de Dieu. Ah, ça, qu'il détruise le diable, on est tout content. Mais dire qu'on est tout content qu'il va détruire tous les suppôts de Satan, ça, on a des sentiments chrétiens et on se dit, oh, bien sûr, on doit prier les uns pour les autres, on doit prier pour ceux qui nous persécutent, on doit, bien sûr, mais on doit savoir que ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ne veulent pas changer de chemin, ceux qui veulent continuer dans la voie du chaos et mourir dans cet état-là, il n'y a pas de chance pour eux. C'est le chaos, c'est la mort, c'est la destruction. On doit être d'accord avec l'intention de Dieu. Dieu ne fait pas des sentiments. Son intention, il nous la communique par les Saintes Écritures. Si un chrétien a une bonne relation avec Dieu, alors il comprend ce que Dieu communique par les Écritures. La communication avec Dieu, quand un chrétien est quelqu'un qui est à l'écoute, quand un chrétien est une personne qui se rend sensible à la voix de Dieu, alors sa communication avec Dieu n'est pas parasitée par des enseignements frelatés au goût poussiéreux de religion. Il n'a pas la Bible plus des bouquins qui lui expliquent la Bible. Non, il a la Bible. Et s'il trouve un bouquin écrit par un vrai serviteur de Dieu qui explique certaines choses qui sont un peu mystérieuses dans la Bible, alors il va reconnaître si ça vient de Dieu ou pas parce qu'il a le discernement des esprits. Mais c'est la Bible d'abord. Alors nous sommes dans ce monde, or le monde, c'est l'ensemble de ce qu'on peut percevoir. Mais on ne peut pas se permettre de percevoir ce monde uniquement avec nos cinq sens. Nous devons apprendre à percevoir le monde à travers l'intention de Dieu. C'est pourquoi il est bon de lire la Bible, parce que la Bible nous raconte des histoires de gens qui ont eu certains comportements et on voit la réaction de Dieu. Donc ainsi, on peut connaître comment Dieu réagit par rapport à certaines actions, certaines choses. L'intention du diable, on doit la connaître, on doit savoir, on doit apprendre quelles sont les intentions du diable, quelles sont les intentions des incroyants, quelles sont les intentions des soi-disant croyants, quelles sont l'intention des faux croyants. Et voilà pourquoi Jésus a construit son Église selon Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, parce que c'est pour que nous apprenions plus vite que si on était simplement livré à nous-mêmes. Si vous faites votre service militaire par correspondance devant votre ordinateur, vous ne serez jamais un soldat. Vous devez laisser tout et aller à la caserne. Et la caserne de Jésus, c'est son Église, c'est une communauté. Les soldats ils vivent ensemble. Oui ou non? Ben oui. Embêtant, hein, Michel Jonton dirait qu'il a toujours raison. Embêtant, hein, c'est ballot. Quand vous percevez ce monde au travers de l'intention de Dieu, vous savez une chose importante. Ce monde n'est pas aussi réel qu'on pourrait le penser. Le grand défaut collectif des Églises, c'est de ne pas tenir compte de l'intention de Dieu. Les Églises ont, pour ainsi dire, coupé la communication qui devait les relier à l'intention de Dieu. Là, cette semaine, on a vu que je ne m'en rappelle plus quel pays, je ne sais plus quel pays, en Europe. Voilà, toute l'Église protestante va bénir le mariage des homosexuels. Ben, je suis désolé, ils peuvent être protestants, ils peuvent être tout ce que vous voulez, ils sont contre le code. J'aime, je ne veux pas dire que j'aime pas les homosexuels, mais c'est pas une. C'est, bref. Les églises ne tiennent plus trop compte du code, de la Sainte Bible. Soi-disant par amour. Ah oui, c'est par amour. C'est par... Alors, nous n'aimons pas les homosexuels et regardez eux comme ils les aiment, ils bénissent leur mariage, n'est-ce pas? C'est tout par amour qu'ils font. Mais c'est pas d'après le code. Alors, je ne vais pas me faire des copains avec cette prédication. Hein. Ils croient tenir compte du code, mais en vérité, ils sont empêtrés dans leur tradition poisseuse et dans leur aveuglement. Et comme le Saint-Esprit, à force, s'est retiré, alors les chrétiens se trouvent seuls. Vous n'êtes pas seuls, vous qui écoutez Révélation Bible, là, ils se retrouvent seuls avec uniquement leurs intérêts personnels, familiaux, leurs frustrations, leurs espoirs, leurs peurs. En ce moment, il y a un code, il y a un virus qui est pire que le Covid, c'est la peur. On vous fait peur. Arrêtez d'avoir peur. Comment faire? Coupez la télé. Ils vivent au jour le jour, sans être conscients d'être reliés à tout le reste. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas utiliser les intentions de Dieu. Les manipuler. Ce qu'un disciple de Jésus peut faire, une fois qu'il a pris conscience des intentions de Dieu, c'est de prendre autorité au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sur le monde matériel, sur le monde spirituel, selon les intentions de Dieu. Mais pour arriver à des résultats, il faut d'abord commencer par apprendre à nous accorder avec les intentions de Dieu. Ce n'est pas d'accord avec les intentions de Dieu. Vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez, ils ne partiront pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Il y a une grande, frère et sœur, une grande différence entre la détermination et les intentions. On est tous déterminés à vaincre le mal. Ils sont très rares les gens qui se lèvent le matin en disant « Qu'est-ce que je pourrais bien faire de mal aujourd'hui ?» Il y en a. Mais c'est quand même assez rare. On est tous déterminés à faire le bien. Mais cette détermination n'est pas suffisante parce que les intentions de Dieu sont inscrites dans le calendrier de Dieu. Alors vous ne pouvez pas forcément faire le bien que vous voulez parce que ça n'est pas le moment de le faire. Et vous vous trompez de moment. Et alors tout va de travers. Et pourtant vous dites, mais j'ai fait de mon mieux. Il nous faut être à l'écoute car le code, la Sainte Bible, nous donne des repères à court, moyen et long terme. On ne peut pas se servir des choses, des prophéties qui ont été données sur un sujet pour envisager l'avenir alors que ça ne concerne absolument pas ça. Ça concernait autre chose. Vous voyez, mes frères ? Nous devons faire attention de ne pas nous tromper par des interprétations erronées du code. Par exemple, de nos jours, et ça, la majorité des chrétiens l'ignorent totalement, parce que le diable a réussi à salir la réputation des véritables prophètes de Dieu au profit des faux prophètes qui radotent. Par exemple, de nos jours, nous vivons ce que Jean a annoncé en Apocalypse 6, 7, 8. Ce que nous vivons là maintenant, c'est l'accomplissement de la prophétie qui se trouve dans Apocalypse 6, 7, 8. Il y en a qui vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je m'en fous de ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez qui est important. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu ne se trompe jamais. Et il parle à ses serviteurs, les prophètes, pas à la sœur Tartampion au fin fond de sa cuisine et qui a des visions et des machins. Non, il y a des prophètes majeurs qui ont parlé et vous ne les avez pas écoutés, vous les avez rejetés, vous avez cru. Ces guignols sur leur estrade qui vous ont dit que c'était des faux prophètes et vous écoutez maintenant une foule de faux prophètes qui viennent vous raconter des âneries.
Ça, vous les croyez. L'Église, elle est dans la position qui se trouve dans Apocalypse 3, 14 à 22. Lisez-le. Ce que Apocalypse 3, 14 à 22 déclare, c'est ce qu'est l'Église aujourd'hui. Vous ne voulez pas ? Vous croyez que je me trompe ? Eh bien, continuez à errer dans votre inconfortable confort faussement spirituel à la noix de coco. Mais moi, je m'en fiche. Moi et ma maison, nous avons décidé de servir Dieu selon le code. Vous savez, en Suisse, c'est pas bête et discipliné, c'est intelligent et discipliné. On est un peuple qui a été discipliné depuis tout petit. On nous a appris. Et l'armée, on ne la fait pas qu'une fois. Chaque année, on fait l'armée. Chaque année, on va faire des cours de perfectionnement pendant 3 semaines où on nous remet devant ce bain de discipline. On nous remet là-dedans. Chaque année. Fou ! Et ici, en France, plutôt, on supprime l'armée. Non, mon Dieu. Je ne dis pas que je suis pour l'armée, mais je suis pour que les chrétiens soient des disciples, c'est-à-dire des êtres disciplinés, à obéir sans discuter, sans dire « moi je pense que ». Alors l'autre jour, quelqu'un me disait « je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, je crois seulement la parole de Dieu ». Ah oui, parce que moi je ne crois pas la parole de Dieu alors. J'ai dit « alors si vous croyez seulement la parole de Dieu, absolument et complètement seulement la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites de Luc 14, 33 ?» Pouf, silence radio, plus de réponse. Pourquoi ? Parce que ça l'embête. Luc 14, 33, c'est très gênant pour un chrétien. Nous vivons précisément ce que Jésus a annoncé dans Matthieu chapitre 24, 9 à 14 et rien d'autre. C'est ce que nous vivons actuellement. Matthieu 24, 9 à 14. Vous allez me dire, j'ai pas de Bible. Ah ben, c'est pas ma faute. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit de je sais plus quel pays, en Afrique, pour que je lui offre une Bible. J'ai dit, vous allez sur Amazon, vous en avez à 10 euros des Bibles. Moi, je vais en acheter une, 10 euros, puis je vais payer encore 50 euros. De frais de port pour vous fournir une Bible alors qu'il vous l'envoie gratuitement. Vous avez un téléphone puisque vous m'écrivez, vous avez un ordinateur puisque vous m'écrivez, ou alors vous allez dans un cybercafé pour pouvoir me contacter avec, et ça vous coûte de l'argent. Et bien l'argent que vous dépensez pour me demander de vous acheter une Bible, ça vous suffirait pour pouvoir vous procurer une Bible. Il faut être intelligent. Je dis non, je ne vous offrirai pas de Bible, désolé. Un soldat qui se sait en guerre, mais qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas où il doit aller, qui ne sait pas ce qu'il a à faire, ni quelle sorte d'ennemi il doit affronter, c'est un soldat inutile, voire perdu. Chef, j'ai glissé. Quand un disciple de Jésus sait quelles sont les intentions de Dieu, il gagne partout. Un jour, il y a un gros lard qui est venu chez moi, qui m'a dit, alors que j'étais dans les épreuves, dans les difficultés, il m'a dit, je viens contempler ton échec. Quel échec ? Où il est l'échec ? Où ? Quel échec ? Un disciple qui connaît les intentions de Dieu, il gagne tout le temps. Et même quand il... Eh bien, comment voulez-vous gagner si vous ne perdez pas d'abord ? Vous comprenez ça ? Si on n'a pas une bagarre, si on n'a pas une lutte, si on n'est pas de temps en temps blessé... Un disciple de Jésus qui sait quelles sont les intentions de Dieu, il gagne partout parce qu'il est avec Dieu là où est Dieu. C'est tout. Vous savez, les chrétiens charnels qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu, qui n'écoutent pas les prophètes majeurs, mais qui écoute la sœur Tartampion, qui a visité l'enfer, puis qui a vu Michael Jackson en enfer. Des âneries. Ça se vend dans les librairies chrétiennes, des âneries pareilles. Il n'y a personne en enfer. Le premier qui sera jeté dans l'enfer, c'est le faux prophète ou l'antichrist, je ne sais plus. Puis après, ça sera à la fin, quand il y aura le jugement, le diable et tous ses suppôts seront jetés. Mais pour le moment, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'elle vient me raconter, l'autre? Et puis il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, hein, de ces bonnes femmes et ces bonhommes qui ont vu l'enfer, et puis ont vu des gens en enfer. C'est faux! Et ça, les gens se régalent avec ça. Ah, oh, ils aiment ça, ils aiment les fables. Ils n'aiment pas écouter les prophètes majeurs qui parlent pour leur temps, dans le temps présent, ils n'écoutent pas ça, ils ne veulent pas de ça. Ces chrétiens-là, ils peuvent attraper les choses du monde avec leurs mains, avec leur intellect, mais le disciple qui est aux ordres du roi des rois, lui, il attrape les choses avec l'intention de Dieu. Il a les mêmes intentions que Dieu a, alors il réussit. Comment expliquer ça? C'est aussi difficile que d'essayer d'expliquer comment on entend. On peut seulement dire ce qu'on entend, mais on ne peut pas tellement expliquer comment on entend. Et c'est ce que Jésus faisait. Écoutez ce qu'il dit.
Je vais vous lire le passage, ça se trouve dans Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30.
Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Ben, pareil que moi. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, et que ce qu'il entendait que le Père lui disait. Pareil pour nous. Pareil pour un véritable disciple de Jésus, il écoute ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il entendait Jésus? Les intentions de son Père. Pourquoi il est passé par la porte du temple des dizaines et des dizaines de fois sans guérir l'homme qui était assis là, que tous les matins sa famille venait déposer à la porte du temple? Il a passé devant des dizaines de fois sans guérir alors qu'il guérissait plein de gens, parce que Dieu ne l'a jamais dit de le faire. Alors il ne l'a pas fait. C'était réservé à Pierre et Jean, je crois, ils étaient les deux. Vous comprenez ça? Dieu a un calendrier. Oh là, Dieu est tout puissant, puis alors ce pauvre paralytique qui passe devant tous les jours, puis il ne fait rien, pourquoi Dieu ne fait rien? Gna, 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 gna. Dieu a un calendrier, arrêtez de discuter. Dieu sait, il faut que vous sachiez aussi quelles sont ses intentions. Par contre, on peut développer notre écoute. Pour développer notre écoute, pour comprendre quelles sont les intentions de Dieu, il faut nettoyer notre case savoir de toutes les impuretés ajoutées par les religions. Il faut choisir de se lever tôt pour méditer et pour prier. Alors c'est ainsi que le disciple de Jésus accomplit des exploits, fait des choses que le commun des mortels ne peut pas faire. Il accomplit des prodiges au nom de Jésus et il continue à le faire. Et en le faisant, il prend de plus en plus conscience qu'une sorte de pouvoir est en train d'émerger. Un disciple de Jésus ne peut pas expliquer aux gens, dire aux gens comment il a obtenu ce pouvoir. Si ce n'est pas simplement la mise en pratique du code. La mise en pratique du code de la parole de Dieu. L'art du disciple, c'est l'obéissance à la sainte parole de Dieu. On est disciple de Dieu et on écoute sa parole, pas n'importe quoi, pas n'importe qui. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Son peuple dort, ne voit rien, ne voit pas dans quel temps il est. Ne sait pas à quoi s'attendre. Il dit, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Il y a des prophètes qui disent, oui, il y aura une deuxième vague. Puis il y en a d'autres qui disent, non, il n'y aura pas de deuxième vague. Ils sont complètement dans la confusion. Le peuple de Dieu, il est comme une armée sans directive. Comme la 7e compagnie qui est perdue, vous savez. Chef, j'ai glissé. Ils se sont donné une foule de docteurs qui leur enseigne des fables, des âneries. Le Seigneur m'a montré qu'en ajoutant l'âge du chef de gare, avec Ézéchiel 36, 22, moins Amos 4, 7, multiplié par la vision de la sœur Trochu, on arrive au 47e jour selon le calendrier grégorien, après la descente des organes de la sœur Plutstadt, à savoir que Jésus revient le 13 septembre. Vous connaissez ce clown qui depuis des années vous dit quand c'est que Jésus va revenir et qui vous donne des dates et c'est jamais vrai, ils se trompent toujours et ils continuent et les gens continuent à l'écouter, il y en a même qui le soutiennent financièrement. C'est infernal! Ils se sont donné une foule de docteurs selon leur propre cœur qui leur enseignent des fables. Mon Dieu, aie pitié de ton peuple. Amen. Jésus, je te prie d'avoir pitié de ton peuple et de permettre que quelques-uns de ceux qui m'ont écouté ce matin se réveillent et se mettent à l'écoute de tes intentions. Merci Jésus. Amen. Au revoir.